Orgueil et préjugés, Jane Austen. Morceau choisi. Chapitre 1. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et si peu que l'on sache de son sentiment à cet égard, lorsqu'il arrive dans une nouvelle résidence, cette idée est si bien fixée dans l'esprit de ses voisins qu'ils le considèrent sur le champ comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. « Savez-vous, mon cher ami, dit un jour Mrs. Bennet à son mari, que Netherfield Park est enfin loué ?» Mr. Bennet répondit qu'il l'ignorait. « Eh bien, c'est chose faite. Je le tiens de Mrs. Long qui sort d'ici. » Mr. Bennet garda le silence. « Vous n'avez donc pas envie de savoir qui s'y installe ?» s'écria sa femme impatientée. « Vous brûlez de me le dire et je ne vois aucun inconvénient à l'apprendre. » Mrs. Bennet n'en demandait pas davantage. « Eh bien, mon ami, à ce que dit Mrs. Long, le nouveau locataire de Netherfield serait un jeune homme très riche du nord de l'Angleterre. Il est venu lundi dernier en chaise de poste pour visiter la propriété et l'a trouvé tellement à son goût qu'il s'est immédiatement entendu avec Mr. Morris. Il doit s'y installer avant la Saint-Michel et plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaine prochaine afin de mettre la maison en état.
Comment s'appelle-t-il ?
Bingley. Marié ou célibataire ?
Oh, mon ami, célibataire, célibataire et très riche. 4 ou 5 000 livres de rente, quelle chance pour nos filles.
Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ?
Que vous êtes donc agaçant, mon ami. Je pense, vous le devinez bien, qu'il pourrait être un parti pour l'une d'elles.
Est-ce dans cette intention qu'il vient s'installer ici ?
Dans cette intention ? Quelle plaisanterie ! Comment pouvez-vous parler ainsi ? Tout de même ! Il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce qu'il s'éprenne de l'une d'elles. C'est pourquoi vous ferez bien d'aller lui rendre visite dès son arrivée.
Je n'en vois pas l'utilité. Vous pouvez y aller vous-même avec vos filles ou vous pouvez les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore préférable, car vous êtes si bien conservé que Mr. Bingley pourrait se tromper et égarer sur vous sa préférence.
Ne me flattez pas, mon cher, j'ai certainement eu ma part de beauté jadis, mais aujourd'hui, j'ai abdiqué toute prétention. Lorsqu'une femme a 5 filles en âge de se marier, elle doit cesser de songer à ses propres charmes.
D'autant que, dans ce cas, il est rare qu'il lui en reste beaucoup.
Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir Mr. Bingley dès qu'il sera notre voisin.
Je ne m'y engage. « Nullement.
Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que serait pour l'une d'elles un tel établissement. Sir William et Lady Lucas ont résolu d'y aller uniquement pour cette raison, car vous savez que d'ordinaire, ils ne font jamais visite aux nouveaux venus. Je vous le répète, il est indispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nous ne pourrions y aller nous-mêmes. »«
Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. » Je suis persuadée que Mr. Bingley serait enchanté de vous voir et je pourrais vous confier quelques lignes pour l'assurer de mon chaleureux consentement à son mariage avec celle de mes filles qu'il voudra bien choisir. Je crois toutefois que je mettrai un mot en faveur de ma petite Lizzie.
Quelle idée ! Lizzie n'a rien de plus que les autres. Elle est beaucoup moins jolie que Jane et n'a pas la vivacité de Lydia.
Certes. Elles n'ont pas grand-chose pour les recommander les unes ni les autres. Elles sont sottes et ignorantes comme toutes les jeunes filles.
Lizzie, pourtant, a un peu plus d'esprit que ses sœurs.
Oh, Mr. Bennet, parlez ainsi de ses propres filles. Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer. Vous n'avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs.
Vous vous trompez, ma chère. J'ai pour vos nerfs le plus grand respect. Ce sont des vieux amis. Voilà plus de 20 ans que je vous entends parler d'eux avec considération.
Ah, vous ne vous rendez pas compte de ce que je souffre.
J'espère cependant que vous prendrez le dessus et que vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreux jeunes gens pourvus de 4 000 livres de rente venir s'installer dans le voisinage.
Et quand il en viendrait 20, à quoi cela servirait-il puisque vous refusez de faire leur connaissance ?
Soyez sûre, ma chère, que lorsqu'ils atteindront ce nombre, j'irai leur faire visite à tous.
Mr. Bennet était un si curieux mélange de vivacité, d'humeur sarcastique, de fantaisie et de réserve qu'une expérience de 23 années n'avait pas suffi à sa femme pour lui faire comprendre son caractère. Mrs. Bennet, elle-même, avait une nature moins compliquée. D'intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère inégal, chaque fois qu'elle était de mauvaise humeur, elle s'imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grand souci dans l'existence était de marier ses filles et sa distraction la plus chère, les visites et les potins. Chapitre 7. La fortune de Mr. Bennet consistait, presque tout entière, en un domaine d'un revenu de 2 000 livres, mais qui, malheureusement pour ses filles, devait à défaut d'héritier mâle revenir à un cousin éloigné. L'avoir de leur mère, bien qu'appréciable, ne pouvait compenser une telle perte. Mrs. Bennet, qui était la fille d'un avoué de Meryton, avait hérité de son père 4 000 livres. Elle avait une sœur mariée à un Mr. Phillips, ancien clerc et successeur de son père, et un frère honorablement établi à Londres, dans le commerce. Le village de Longbourn n'était qu'à 1 mile de Meryton. Distance commode pour les jeunes filles qui, 3 ou 4 fois par semaine, éprouvaient l'envie d'aller présenter leurs devoirs à leur tante, ainsi qu'à la modiste qui lui faisait face de l'autre côté de la rue. Les deux Benjamines, d'esprit plus frivole que leurs aînés, mettaient, à rendre ces visites, un empressement particulier. Quand il n'y avait rien de mieux à faire, une promenade à Meryton occupait leur matinée et fournissait un sujet de conversation pour la soirée. Si peu fertile que fût le pays en événements extraordinaires, elles arrivaient toujours à glaner quelques nouvelles chez leur tante. Actuellement, elles étaient comblées de joie par la récente arrivée dans le voisinage d'un régiment de la milice. Ils devaient y cantonner tout l'hiver, et Meryton était le quartier général. Les visites à Mrs. Phillips était maintenant féconde en informations du plus haut intérêt. Chaque jour ajoutait quelque chose à ce que l'on savait sur les officiers, leur nom, leur famille, et bientôt l'on fit la connaissance avec les officiers eux-mêmes. Mr. Phillips leur fit visite à tous, ouvrant ainsi à ses nièces une source de félicité inconnue jusqu'alors. Du coup, elles ne parlèrent plus que des officiers, et la grande fortune de Mr. Bingley, dont l'idée seule faisait vibrer l'imagination de leur mère, n'était rien pour elles, comparée à l'uniforme rouge d'un sous-lieutenant. Un matin, après avoir écouté leur conversation sur cet inépuisable sujet, Mr. Bennet observa froidement.
Tout ce que vous me dites me fait penser que vous êtes deux des filles les plus sottes de la région. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais aujourd'hui, j'en suis convaincue.
Catherine, déconcertée, ne souffle un mot. Mais Lydia, avec une parfaite indifférence, continua d'exprimer son admiration pour le capitaine Carter et l'espoir de le voir le jour même, car il partait le lendemain pour Londres.
« Je suis surprise, mon ami, intervint Mrs. Bennet, de vous entendre déprécier vos filles aussi facilement. Si j'étais en humeur de critique, ce n'est pas à mes propres enfants que je m'attaquerais. »
« Si mes filles sont sottes, j'espère bien être capable de m'en rendre compte. »«
Oui, mais il se trouve au contraire qu'elles sont toutes fort intelligentes. » »«
Voilà le seul point, et je m'en flatte, sur lequel nous sommes en désaccord.
Je voulais croire que vos sentiments et les miens coïncidaient en toutes choses, mais je dois reconnaître qu'ils diffèrent en ce qui concerne nos deux plus jeunes filles, que je trouve remarquablement niaise.
Mon cher Mr. Bennet, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver chez ces enfants le jugement de leur père et de leur mère. Lorsqu'elles auront notre âge, j'ose dire qu'elles ne penseront pas plus aux militaires que nous n'y pensons nous-mêmes.
Je me rappelle le temps où j'avais aussi l'amour de l'uniforme. À dire vrai, je le garde toujours au fond du cœur. Et si un jeune et élégant colonel, pourvu de 5 ou 6 000 livres de rente, désirait la main d'une de mes filles, ce n'est pas moi qui le découragerais. L'autre soir, chez Sir William, j'ai trouvé que le colonel Forster avait vraiment belle mine en uniforme.
« Maman !» s'écria Lydia. « Ma tante dit que le colonel Forster et le capitaine Carter ne vont plus aussi souvent chez Miss Watson et qu'elle les voit maintenant faire de fréquentes visites à la librairie Clark. »
La conversation fut interrompue par l'entrée du valet de chambre, qui apportait une lettre adressée à Jane. Elle venait de Netherfield et un domestique attendait la réponse. Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent de plaisir. Et pendant que sa fille lisait, elle la pressait de questions.
« Eh bien, Jane, de qui est-ce ? De quoi s'agit-il ? Voyons, répondez vite, ma chérie. »
« C'est de Miss Bingley, répondit Jane. Et elle lut tout haut.
« Cher ami, si vous n'avez pas la charité de venir dîner aujourd'hui avec Louisa et moi, nous courrons le risque de nous brouiller pour le reste de nos jours, car un tête-à-tête de toute une journée entre deux femmes ne peut se terminer sans querelle. Venez aussitôt, ce mot reçu, mon frère et ses amis doivent dîner avec les officiers. Bien à vous, Caroline Bingley. »
« Ah, les officiers !» s'exclama Lydia.
« Je m'étonne que ma tante nous en ait rien dit. »«
Il dîne en ville, » dit Mrs. Bennet.
« Pas de chance. »«
Puis-je avoir la voiture ?» demanda Jane.
« Non, mon enfant, vous feriez mieux d'y aller à cheval, car le temps est à la pluie. Vous ne pourrez vraisemblablement pas revenir ce soir. »«
Ce serait fort bien, » dit Elizabeth, « si vous étiez sûre que les Bingley n'offriront pas de la faire reconduire. »
« Oh, pour aller à Meryton, ces messieurs ont dû prendre le cabriolet de Mr. Bingley et les Hurst n'ont pas d'équipage. »«
J'aimerais mieux y aller en voiture. »«
Ma chère enfant, votre père ne peut donner les chevaux. On en a besoin à la ferme, n'est-ce pas, Mr. Bennet ?»«
On en a besoin à la ferme plus souvent que je ne puis les donner. »«
Alors si vous les donnez aujourd'hui, » dit Elizabeth, « vous servirez les projets de ma mère. »
Mr. Bennet, finalement, reconnut que les chevaux étaient occupés.
Jane fut donc obligée de partir à cheval et sa mère la conduisit jusqu'à la porte en formulant toutes sortes de joyeux pronostics sur le mauvais temps.
Son espérance se réalisa. Jane était à peine partie que la pluie se mit à tomber avec violence. Ses sœurs n'étaient pas sans inquiétude à son sujet, mais sa mère était enchantée.
La pluie continua toute la soirée sans arrêt.
Certainement, Jane ne pourrait pas revenir. « Chapitre 14. Pendant le repas, Mr. Bennet avait à peine ouvert la bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, il pensa qu'il était temps de causer un peu avec son hôte et mit la conversation sur le sujet qu'il estimait le mieux choisi pour le faire parler en félicitant son cousin d'avoir trouvé une protectrice qui se montrait si pleine d'attention pour ses désirs et de sollicitude pour son confort. Mr. Bennet ne pouvait pas mieux tomber. Mr. Collins fut éloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il solennellement, il n'avait rencontré chez un membre de l'aristocratie l'affabilité et la bienveillance que lui témoignait Lady Catherine. Elle avait été assez bonne pour apprécier les deux sermons qu'il avait eu l'honneur de prêcher devant elle. Deux fois déjà, elle l'avait invité à dîner à Rosings. Et le samedi précédent, encore, l'avait envoyé chercher pour faire le quatrième à sa partie de quadrille. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais rien vu de tel chez elle. Elle le traitait en gentleman et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage ou s'absentât une semaine ou deux pour aller voir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu'à lui conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu'il fît un choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dans son presbytère, où elle avait pleinement approuvé les améliorations qu'il y avait apportées, et daignait même en suggérer d'autres, par exemple des rayons à poser dans les placards du premier étage. « Voilà une intention charmante !» dit Mrs. Bennet. « Et je ne doute pas que Lady Catherine ne soit une forte aimable femme. C'est bien regrettable que les grandes dames en général lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votre voisinage, monsieur ?»« Le jardin qui entoure mon humble demeure n'est séparé que par un sentier de Rosings Park, résidence de sa grâce. »« Je crois avoir entendu dire qu'elle était veuve. A-t-elle des enfants ?»«
Elle n'a qu'une fille. » Héritière de Rosings et d'une immense fortune.
Ah ! S'écria Mrs. Bennet en soupirant. Elle est mieux partagée que beaucoup d'autres. Et cette jeune fille est-elle jolie ?
Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine dit elle-même que Miss de Bord possède quelque chose de mieux que la beauté, car dans ses traits se reconnaît la marque d'une haute naissance.
Malheureusement, elle est d'une constitution délicate et n'a pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu dans différents arts d'agrément pour lesquels elle témoignait des dispositions remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé son éducation et qui continue à vivre auprès d'elle à Rosings, mais Miss de Bord est parfaitement aimable et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poney qu'elle conduit elle-même.
A-t-elle été présentée ? Je ne me rappelle pas avoir vu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour.
Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pas de vivre à Londres.
C'est ainsi, comme je l'ai dit un jour à Lady Catherine, que la cour d'Angleterre se trouve privée d'un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine a paru touchée de mes paroles. Vous devinez que je suis heureux de lui adresser de ses compliments, toujours appréciés des dames chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces petits riens plaisent à sa grâce et font partie des hommages que je considère comme mon devoir de lui rendre.
Vous avez tout à fait raison, dit Mrs. Bennet. Et c'est un bonheur pour vous de savoir flatter avec tant de délicatesse. Puis-je vous demander si ces compliments vous viennent spontanément ou si vous devez les préparer d'avance ?
Oh, spontanément, en général. Je m'amuse aussi et parfois en préparer quelques-uns d'avance, mais je m'efforce toujours de les placer de façon aussi naturelle que possible. Les prévisions de Mr. Bennett avaient été justes. Son cousin était aussi parfaitement ridicule qu'il s'y attendait. Il l'écoutait avec un vif amusement, sans communiquer ses impressions, autrement que par un coup d'œil que de temps à autre il lançait à Elisabeth. Cependant, à l'heure du thé, trouvant la mesure suffisante, il fut heureux de ramener son hôte au salon. Après le thé, il lui demanda s'il voulait bien faire la lecture à ces dames. Mr. Collins consentit avec empressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue du titre, il eut un léger recul et s'excusa, protestant qu'il ne lisait jamais de roman. Kitty le regarda avec ahurissement, et Lydia s'exclama de surprise. D'autres livres furent apportés, parmi lesquels il choisit, après quelques hésitations, les sermons de Fordyce. Lydia se mit à bâiller lorsqu'il ouvrit le volume, et il n'avait pas lu trois pages d'une voix emphatique et monotone qu'elle l'interrompit en s'écriant. « Maman, savez-vous que l'oncle Philippe se parle de renvoyer Richard et que le colonel Forster serait prêt à le prendre à son service ? J'irai demain à Meryton pour en savoir davantage et demander quand le lieutenant Denis reviendra de Londres. » Lydia fut priée par ses deux aînés de se taire. Mais Mr. Collins, froissé, referma son livre en disant « J'ai souvent remarqué que les jeunes filles ne savent pas s'intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond, je l'avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu'une lecture instructive. Mais je n'ennuierai pas plus longtemps ma jeune cousine. » Et malgré l'insistance de Mrs. Bennett et de ses filles pour qu'il reprît sa lecture, Mr. Collins, tout en protestant qu'il ne gardait nullement rancune à Lydia, se tourna vers Mr. Bennett et lui proposa une partie de trick-track. Chapitre 19. Le lendemain, amena du nouveau à Longbourn. Mr. Collins fit sa déclaration. Il n'avait plus de temps à perdre, son congé devant se terminer le samedi suivant. Et comme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude qui pût l'arrêter au dernier moment, il décida de faire sa demande dans les formes qu'il jugeait indispensables dans cette circonstance. Trouvant, après le breakfast, Mrs. Bennett en compagnie d'Elisabeth et d'une autre de ses filles, il lui parla ainsi. « Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appui pour obtenir de votre fille Elisabeth un entretien particulier dans le cours de la matinée ?» Avant qu'Elisabeth, rougissante, eût eu le temps d'ouvrir la bouche, Mrs. Bennett avait déjà répondu. « Mais je crois bien, je suis sûre qu'Elisabeth ne demande pas mieux. Venez, Kitty, j'ai besoin de vous au premier. » Et rassemblant son ouvrage, elle se hâtait vers la porte lorsqu'Elisabeth s'écria. « Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Mr. Collins m'excusera, mais il n'a certainement rien à me dire que tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même me retirer. » « Non, non, Lizzie, quelle est cette sottise? Je désire que vous restiez. » Et comme Elisabeth, rouge de confusion et de colère, continuait à gagner la porte, Mrs. Bennett ajouta. « Lizzie, j'insiste pour que vous restiez et que vous écoutiez ce que Mr. Collins veut vous dire. »
La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction. Comprenant, après un instant de réflexion, que mieux valait en finir au plus vite, elle se rassit et reprit son ouvrage pour se donner une contenance et dissimuler la contrariété ou l'envie de rire qui la prenait tour à tour. La porte était à peine refermée sur Mrs. Bennet et Kitty que Mr. Collins commençait. « Croyez, chère Miss Elizabeth, que votre modestie, loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu'ajouter à vos charmes. Vous m'auriez paru moins aimable sans ce petit mouvement de retraite, mais laissez-moi vous assurer que j'ai pour vous parler la permission de votre respectable mère. Vous vous doutez sûrement du but de cet entretien, bien que votre délicatesse vous fasse simuler le contraire. J'ai eu pour vous trop d'attention pour que vous ne m'ayez pas deviné. À peine avais-je franchi le seuil de cette maison que je voyais en vous la compagne de mon existence. Mais avant de me laisser emporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me font songer au mariage et le motif qui m'a conduit en Hertfordshire pour y chercher une épouse. L'idée du solennel Mr. Collins, se laissant emporter par le flot de ses sentiments, parut si comique à Elizabeth qu'elle dut faire effort pour ne pas éclater de rire et perdit l'occasion d'interrompre cet éloquent discours. « Les raisons qui me déterminent à me marier, continua-t-il, sont les suivantes. » Premièrement, je considère qu'il est du devoir de tout clergyman de donner le bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer. Deuxièmement, je suis convaincu, ce faisant, de travailler à mon bonheur. Troisièmement, j'aurais dû peut-être commencer par là. Je réponds ainsi au désir exprimé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Par deux fois, et sans que je l'en eusse priée, elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Le samedi soir qui a précédé mon départ, entre deux parties de quadrille, elle m'a encore dit « Mr. Collins, il faut vous marier. Un clergyman comme vous doit se marier. Faites un bon choix. Pour ma satisfaction et pour la vôtre, prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse, non point élevée dans des idées de grandeur, mais capable de tirer un bon parti d'un petit revenu. Trouvez une telle compagne le plus tôt possible, amenez-la à Hunsford et j'irai lui rendre visite. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous dire en passant que la bienveillance de Lady Catherine de Bore n'est pas un des moindres avantages que je puis vous offrir. Ses qualités dépassent tout ce que je puis vous en dire, et je crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont, surtout s'ils sont tempérés par la discrétion et le respect que son rang ne peut manquer de vous inspirer. Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il me reste à vous dire pourquoi je suis venue choisir une femme à Longbourn plutôt que dans mon voisinage, où je vous assure il ne manque pas d'aimables jeunes filles. Mais devant hériter de ce domaine à la mort de votre honorable père, qui, je l'espère, ne se produira pas d'ici de longues années, je ne pourrais être complètement satisfait si je ne choisissais une de ces filles afin de diminuer autant que possible le tort que je leur causerai lorsqu'arrivera le douloureux événement. Dieu veuille que ce soit le plus tard possible. Ces raisons, ma chère cousine, ne me feront pas, je l'espère, baisser dans votre estime. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous exprimer en termes ardents toute la force de mes sentiments. La question de la fortune me laisse indifférent. Je sais que votre père ne peut rien vous donner et que 1000 livres placées à 4% sont tout ce que vous pouvez espérer recueillir après la mort de votre mère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur ce chapitre. Et vous pouvez être sûr que jamais vous n'entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué de générosité lorsque nous serons mariés. « Vous allez trop vite, monsieur, » s'écria Elizabeth. « Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu.
Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites par cette proposition et je vous en remercie, mais il m'est impossible de ne point la décliner.
Je sais depuis longtemps, répliqua Mr. Collins avec un geste majestueux, qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de repousser celui qu'elles ont au fond l'intention d'épouser lorsqu'il se déclare pour la première fois et qu'il leur arrive de renouveler ce refus une seconde et même une troisième fois. C'est pourquoi votre réponse ne peut me décourager et j'ai confiance que j'aurai avant longtemps le bonheur de nous conduire à l'hôtel.
En vérité, monsieur, cette confiance est plutôt extraordinaire après ce que je viens de vous déclarer. Je vous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, si tant est qu'il en existe, assez imprudentes pour jouer leur bonheur sur la chance de se voir demander une seconde fois. Mon refus est des plus sincères. Vous ne pourriez pas me rendre heureuse et je suis la dernière femme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, je suis sûre qu'elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situation que vous me proposez.
« Quand bien même, » répondit gravement Mr. Collins,
« la vie de Lady Catherine, mais je ne puis imaginer sa grâce en regardant un œil défavorable et soyez certaine que lorsque je la reverrai, je lui vanterai avec chaleur votre modestie, votre esprit d'ordre et vos autres aimables qualités. »
Mr. Collins, toutes ces louanges seraient inutiles. Veuillez m'accorder la liberté de juger pour mon compte et me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Je souhaite vous voir heureux et riche, et en vous refusant ma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Les scrupules respectables que vous exprimiez au sujet de ma famille sont sans objet maintenant que vous m'avez proposé d'être votre femme, et vous pourrez, quand le temps viendra, entrer en possession de Longbourn sans vous adresser aucun reproche.
Cette question est donc réglée. »
Elle s'était levée en prononçant ces derniers mots et allait quitter la pièce quand Mr. Collins l'arrêta par ces mots.
« Lorsque j'aurai l'honneur de reprendre cette conversation avec vous, j'espère recevoir une réponse plus favorable. »
« Non point que je vous accuse de cruauté, et peut-être même en faisant la part de la réserve habituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez aujourd'hui pour m'encourager à poursuivre mon projet ?»«
En vérité, Mr. Collins !» s'écria Elisabeth avec chaleur.
« Vous me confondez ? Si vous considérez tout ce que je viens de vous dire comme un encouragement, je me demande en quels termes il me faut exprimer mon refus pour vous convaincre que c'en est un !»
« Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refus n'est qu'une simple formalité. Il ne me semble pas que je sois indigne de vous, ni que l'établissement que je vous offre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma situation, mes relations avec la famille de bord, ma parenté avec votre famille sont autant de conditions favorables à ma cause. En outre, vous devriez considérer qu'en dépit de tous vos attraits, vous n'êtes nullement certaine de recevoir une autre demande en mariage. Votre dot est malheureusement si modeste qu'elle doit inévitablement contrebalancer l'effet de votre charme et de vos qualités. Force m'est donc de conclure que votre refus n'est pas sérieux, et je préfère l'attribuer au désir d'exciter ma tendresse en la tenant en suspense, suivant l'élégante coutume des femmes du monde.
Soyez sûr, monsieur, que je n'ai aucune prétention à cette sorte d'élégance qui consiste à faire souffrir un honnête homme. Je préférerais qu'on me fît le compliment de croire à ce que je dis. Je vous remercie mille fois de votre proposition, mais il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments me l'interdisent absolument. Puis-je parler avec plus de clarté ?
Ne me prenez pas pour une coquette qui prendrait plaisir à vous tourmenter, mais pour une personne raisonnable qui parle en toute sincérité.
Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vous fassiez,
s'écria-t-il avec une lourde galanterie.
Et je suis persuadée que ma demande, une fois sanctionnée par la volonté expresse de vos excellents parents, ne manquera pas de vous paraître acceptable.
Devant cette invincible persistance à vouloir s'abuser, Elisabeth abandonna la partie et se retira en silence.
Oh, Never leave me, never, never.